Il est 12h30 à l'écoute de France Culture. Le journal Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Le choc d'une nouvelle attaque terroriste après le meurtre d'un policier et de sa compagne près de Paris. Les enquêteurs remontent la piste terroriste. Le meurtrier présumé avait été condamné en 2013 pour participation à une filière djihadiste entre la France et le Pakistan. Précision dans un instant avec Antoine Marette, analyse de Florence Turm, réaction politique avec Camille Magnard. Barack Obama se rendra après-demain à Orlando pour rendre hommage aux familles des victimes de la fusillade qui a fait avant-hier 49 morts. Le FBI reste convaincu que le tueur a été radicalisé en partie sur Internet. Explication d'Éric Biegala. L'attaque interfère aussi avec la campagne électorale, nous dira Nadine Epstein. Les opposants au projet de loi travail convergent vers Paris pour une journée de mobilisation nationale dont ils assurent qu'elle ne sera pas seulement un baroud d'honneur. Entre-temps, la loi est revenue au Sénat. Explication de Lorraine Mouyoumba. Commentaire de Stéphane Robert. Le camp du Brexit qui a le vent en poupe à moins de 10 jours maintenant du référendum, le président du Conseil européen Donald Tusk prévient qu'il pourrait marquer non seulement le début de la destruction de l'Union, mais aussi de la civilisation occidentale. Explication de texte avec Pierre Pénazé dans la dernière partie de la Grande Table, Caroline.
En cette nouvelle journée de mobilisation nationale, une plongée dans l'histoire et une question pour aujourd'hui, 1982-2016. Comment réforme-t-on le travail en France ? Notre invité sera l'ancien ministre du Travail, père des lois qui portent encore son nom, Jean Auroux.
Au lendemain donc du meurtre d'un policier et de sa compagne près de Paris, les enquêteurs remontent depuis ce matin la piste terroriste. Réunion d'urgence ce matin à l'Élysée, à l'issue de laquelle le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve dénonce, je cite, un acte terroriste abject. Le meurtrier présumé, Larossi Abala, abattu dans l'opération du raid, était un homme de 25 ans condamné en 2013 déjà pour une participation à une filière djihadiste entre la France et le Pakistan. On va revenir sur ces informations qui arrivent de plus en plus précisément maintenant concernant l'auteur de cette attaque, mais on revient d'abord sur les faits qui datent de la nuit dernière. En début de soirée, l'homme a tué donc à coups de couteau un policier habillé en civil avant de se retrancher au domicile de la victime dans un quartier de Pavillonnaire de Magnanville dans les Yvelines. Antoine Marette.
Le commandant de police du commissariat des Mureaux a été tué de 9 coups de couteau à l'abdomen devant son domicile. Selon des sources policières, il aurait crié « Sauvez-vous » avant de s'écrouler. Ce policier avait auparavant travaillé à Mantes-la-Jolie, commune où habitait Larossi Abala. L'assaillant s'est ensuite retranché au domicile du policier où se trouvait le fils de celui-ci, âgé de 3 ans. On retrouvera après l'assaut du raid la femme du policier égorgée. Elle était secrétaire au commissariat de Mantes-la-Jolie.
Et puis alors vers 21h, le terroriste qui poste avec l'application Facebook Live une publication dans laquelle il revendique son allégeance à l'État islamique. C'est donc avant l'intervention du raid.
Effectivement, c'est une information qui a été révélée par le journaliste de RFI, David Thompson. Le terroriste aurait créé un compte Facebook sous le nom de Mohamed Ali, le boxeur américain récemment décédé. Sur ce compte, il évoque son allégeance à Cher Adnani, l'un des responsables de l'organisation État islamique. Il appelle à tuer les policiers, mais aussi les gardiens de prison, les journalistes et des rappeurs dont il cite les noms. Et il ajoute « L'euro sera un cimetière ». Abala aurait également, selon des sources policières, crié par la fenêtre du pavillon « Vous nous avez attaqués, c'est la réponse de l'État islamique ». Mais il ne s'arrête pas là. Il poste sur Facebook les photos de ses deux victimes et il se met en scène sur le canapé du salon avec le garçonnet, avec ce terrible commentaire « Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec lui ». Le raid tente dans un premier temps de négocier avec l'assaillant avant d'intervenir vers minuit. Le garçonnet est sauvé, mais il est bien évidemment très choqué. Le terroriste, lui, est abattu. L'attaque est ensuite revendiquée par l'État islamique. Le domicile d'Abala a été perquisitionné ce matin. Aucun explosif ni aucune arme n'ont été retrouvés. Par ailleurs, deux personnes ont été placées en garde à vue. Il s'agit de relations du terroriste.
Merci beaucoup, Antoine Marette, suspect donc qui faisait l'objet d'une fiche S, originaire de Mantes-la-Jolie, qui avait été jugé avec 7 autres prévenus et condamné déjà à 3 ans de prison, dont 6 avec sursis pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes. Florence Turm.
Oui, c'était en septembre 2013, le procès d'une filière d'acheminement entre la France et le Pakistan, mais dans ce réseau dirigé par un Indien, Larossi Abala faisait plutôt figure de second couteau. Lui-même n'a jamais quitté la France. À l'audience, il se raconte alors comme un désœuvré converti par l'effet de groupe et les vidéos mettant en scène l'oppression des musulmans. L'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic l'époque qui avait instruit le dossier, évoque un bonhomme comme il en pullule dans les dossiers islamistes, imprévisible, dissimulateur. Il voulait faire le djihad, c'est sûr. Mais à l'époque, les charges contre lui étaient ténues. Il n'y avait pas grand-chose à lui reprocher au strict plan des poursuites pénales, précise le magistrat. Alors, quel a été son parcours depuis sa sortie de prison? Comment a-t-il été surveillé? Ce sont bien sûr les principales questions qui se posent désormais. La Rossi Abala avait créé il y a quelques mois une petite entreprise de livraison de nuit, Dr Food. Il mettait en ligne des vidéos qui étaient aussi souvent des coups de gueule contre ses clients. Ils étaient très actifs, surtout sur les réseaux sociaux, publiaient des contenus complotistes avec sur son profil Facebook, désormais suspendu, des montages photos, notamment celui d'un homme crucifié, et des menaces sur l'Euro 2016. Alors vous l'avez dit, il faisait l'objet d'une fiche S, mais surtout l'objet d'une enquête en cours menée par la SDAT, la sous-direction des services antiterroristes, dans le cadre d'une instruction confiée à un magistrat antiterroriste à Paris, l'objet aussi d'écoutes téléphoniques. L'enquête en question porte sur une filière djihadiste syrienne, cette fois-ci, sans que l'on connaisse son degré d'implication au sein du réseau. Il est encore trop tôt pour dire si les deux personnes en garde à vue depuis ce matin sont aussi impliquées dans ce réseau ou dans ce double meurtre. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, s'est en tout cas montré très prudent, refusant de se prononcer sur l'hypothèse d'un acte isolé et affirmant sa volonté de faire avancer cette enquête de manière à mettre hors d'état de nuire d'éventuels complices.
Merci beaucoup Florence Thiorme. À l'instant, le ministre de l'Intérieur annonce que les syndicats de policiers et des personnels administratifs de la police nationale vont être reçus tout à l'heure place Beauvau après cette attaque donc djihadiste. Sur le plan politique, a signalé que Nicolas Sarkozy estime que notre niveau de vigilance devrait être adapté sans délai à l'unition de la droite qui réclame de nouvelles mesures. Le député Les Républicains des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, dénonçait ce matin sur France Info un état d'urgence au rabais.
Ça fait plus de 150 morts depuis un an et demi contre notre pays. Force est de constater que l'efficacité n'est pas au rendez-vous de l'action contre le terrorisme. Nous sommes en guerre, le président de la République le répète en permanence, mais nous n'utilisons pas les outils de la guerre contre les terroristes. Comment peut-on admettre qu'une personne connue, condamnée, que nous savions représenter une menace pour notre sécurité, soit laissée en liberté tranquillement? Ce n'est plus supportable. Cela fait 4 ans maintenant que je réclame dans tous les débats à l'Assemblée nationale l'ouverture de centres de rétention pour ceux qui présentent une menace contre la nation. Et puis, comment peut-on concevoir que l'état d'urgence ait été vidé de sa substance? Il n'y a plus de perquisition administrative et désormais toutes les manifestations sont autorisées. Tous les policiers le disent, l'état d'urgence n'est plus appliqué. Pourquoi? Je pose aujourd'hui la question au gouvernement, il faut qu'il y ait des réponses.
Question donc d'Éric Ciotti ce matin sur France Info. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Alors on pourrait dire que le débat ne fait que commencer ou plutôt que recommencer.
Oui, un débat qui a été relancé par la droite dès ce matin sans vraiment s'attarder sur la case Unité Nationale et Recueillement. Alors bien sûr on salue comme Alain Juppé le professionnalisme de la BRI et du RAID, professionnalisme hier soir qui a permis de sauver l'enfant de 3 ans du couple de policiers. Mais très vite viennent les questions, voire les attaques à peine dissimulées contre le supposé laxisme du gouvernement. Les réformes sécuritaires promises après les attentats du 13 novembre, ont-elles été menées? Interroge le maire de Bordeaux, le favori de la primaire à droite, qui affirme qu'il faut renforcer les moyens du renseignement et de l'antiterrorisme, comme je l'avais proposé, n'oublie-t-il pas de rappeler. Autre candidat à la primaire de novembre, François Fillon, qui rappelle que le tueur de Magnanville avait été condamné pour participation à une filière djihadiste, qu'il aurait dû être mis hors d'état de nuire. Pour l'ex-premier ministre, les condamnés pour terrorisme doivent faire de la prison ferme sans aucun sursis ni mise à l'épreuve. Laxisme, le mot n'est pas lâché, mais c'est tout comme quand chez les souverainistes, Nicolas Dupont-Aignan explique au gouvernement ce qu'il faut faire, à savoir, selon lui, expulser les combattants étrangers fichés S, assigner à résidence en territoire éloigné les djihadistes français connus des services de renseignement, rétablir les contrôles à toutes les frontières françaises et abroger les lois pénales Taubira et Dati. Enfin, encore plus explicite, il y a le Front National et Marion Maréchal Le Pen qui se demandent sur Twitter combien faudra-t-il de morts avant que ce gouvernement reconnaisse son incapacité absolue à protéger la France.
Camille Magnard, merci.
Barack Obama se rendra après-demain jeudi à Orlando pour rendre hommage aux familles des victimes de la fusillade qui a fait avant-hier 49 morts. La piste du loup solitaire, inspirée par des thèses djihadistes, restée privilégiée par les autorités américaines pour expliquer les motivations de l'auteur du carnage, dont le passé est scruté à la loupe.
Oui, le FBI, comme le président américain d'ailleurs, est de plus en plus convaincu que ce musulman pratiquant américain d'origine afghane a été radicalisé en partie sur Internet et qu'il s'agit donc d'un loup solitaire inspiré par diverses organisations terroristes sans pour autant avoir été dirigé par celle-ci. Et puis hier, la thèse de l'éventuelle homosexualité d'Omar Sedik Mateen a émergé dans plusieurs journaux américains et elle va peut-être compliquer la compréhension des ressorts psychologiques qui ont poussé à l'acte Eric Begala, ce père de famille de 29 ans.
Oui Antoine, les témoignages d'amis, de collègues et jusqu'à l'ex-femme d'Omar Mateen recueillis par la presse américaine se multiplient en effet, qui concourent tous à dresser un portrait du tueur d'Orlando sensiblement différent de celui d'un islamiste radical exécrant l'homosexualité. Plusieurs habitués du Pulse, la boîte gay d'Orlando où le massacre a été commis, se sont souvenus avoir vu Mateen à de très nombreuses reprises dans le club, et ce depuis des années. Un ancien étudiant de l'académie de police, où Mateen poursuivait des études jusqu'en 2006, confiait également au Palm Beach Post hier que Mateen l'accompagnait régulièrement dans des bars transformistes ou homo, et lui aurait même fait des propositions à cette époque-là. Interrogé par la télévision brésilienne, l'ex-femme de Mateen a affirmé qu'il lui aurait avoué, juste après leur mariage en 2009, fréquenter assidûment les boîtes homo. Elle estime qu'Omar Mateen aurait pu être un homosexuel partiellement refoulé. Le Los Angeles Times publiait également ce lundi le témoignage d'un habitué du Pulse qui était régulièrement en contact depuis plus d'un an avec Mateen sur une application de chat gay, Jacked, mais qui n'a rencontré le tueur qu'un court instant, une heure avant le début de la fusillade, sur le parking du nightclub. D'autres habitués du Pulse ont raconté au journal Orlando Sentinel ainsi qu'au LA Times que Mateen avait l'habitude de s'enivrer, souvent seul, qu'il avait été à plusieurs reprises dû être évacué du club dans un état d'ébriété très avancé, qu'il pouvait être volontiers agressif, particulièrement lorsqu'une discussion tournait autour de l'islam.
Eric Begala, merci. En tout cas, cette tuerie d'Orlando est devenue le sujet central de la campagne présidentielle aux États-Unis. Le candidat républicain Donald Trump affirme que s'il est élu, il va suspendre toute immigration issue de pays, je cite, ayant un passé démontré de terrorisme contre l'Occident. De son côté, Mme Clinton prône une multiplication des efforts pour éradiquer la propagande djihadiste sur Internet. Nadine Epstein.
Oui, le candidat républicain exploite cet attentat pour conforter son image d'homme à poigne aux solutions expéditives et populistes, relevant que les parents de l'assassin, un américain de 29 ans, était né en Afghanistan. Donald Trump en profite pour marteler l'un de ses principaux thèmes de campagne, la suspension de l'immigration. La seule raison pour laquelle ce tueur se trouvait en Amérique est que nous avons autorisé sa famille à venir ici, a lancé le milliardaire, et d'en déduire que les personnes ayant des origines pakistanaises, saoudiennes ou somaliennes représentaient une menace et qu'il fallait interdire l'entrée aux États-Unis aux personnes venant de régions ayant un passé terroriste. La candidate démocrate, elle, a dénoncé des déclaration de son adversaire visant à diaboliser les musulmans. Mais Hillary Clinton de vouloir elle aussi apparaître comme une femme d'autorité et de proposer une amplification des bombardements contre les lieux contrôlés par les organisations islamistes. Elle demande également une meilleure coordination internationale au Proche et Moyen-Orient. L'ex-secrétaire d'État a explicitement cité l'Arabie Saoudite, le Koweït et le Qatar, trois des alliés des États-Unis qui autorisent leurs ressortissants à financer des mosquées et des écoles coraniques susceptibles de former des djihadistes. Hillary Clinton a repris une des questions centrales de sa campagne, elle aussi, la vente libre des armes. Elle se prononce pour l'interdiction des armes d'assaut, des pistolets ou fusils semi-automatiques maniés par les tueurs de fusillade. Il est important que nous empêchions les terroristes d'accéder aux instruments dont ils ont besoin pour mener ces attaques, a conclu Hillary Clinton, recommandant aussi de combattre la propagande djihadiste sur Internet.
Nadine Epstein, nous sommes en ligne avec Alain Rodier, bonjour. Chercheur au Centre français de recherche sur le renseignement. Magnanville, Orlando, deux actions revendiquées donc par l'État islamique. Dans quelle mesure les terroristes étaient véritablement sous son influence ?
Oui, alors c'est ça qui est extrêmement intéressant et un petit peu nouveau, c'est que les revendications de l'État islamique dans ces deux dernières actions terroristes ont été extrêmement rapides. Avant, pour prendre un exemple, pour l'Airbus russe de Sharm el-Sheikh, ça avait pris plusieurs jours. Là, maintenant, ça prend quelques heures. Donc on sent que l'État islamique prend complètement en charge maintenant les loups solitaires, entre guillemets, parce que bon, l'appellation peut être sujette à caution, mais donc les, je dirais, les volontaires qui sont présents à l'étranger et qui passent à l'action selon les nombreux appels qui leur sont faits, et qui ne date pas d'hier, puisque Adnani, dont on parle beaucoup, avait fait un appel remarqué le 22 septembre 2014 en disant « tuez les incroyants et américains, canadiens et les méchants et sales français », et ensuite a renouvelé donc ses appels au meurtre. Bon, mais maintenant, vraiment, on sent que l'État islamique est passé à une phase plus importante, vraiment...
Peut-être est-ce dû à ces reculs sur le terrain.
Voilà, revendiquer.
Peut-être est-ce que ça peut être dû à la situation sur le terrain qui, apparemment, ou apparemment, l'État islamique perd du terrain, précisément.
Oui, alors là, je tiens tout de même à rester extrêmement prudent. C'est vrai que nos amis américains ont repris... de concert par énormément de gens disent qu'ils perdent du terrain. Attendez, ils n'ont pas reconquis de grandes localités pour le moment. Bien sûr, Palmyre, ils l'ont conquise, mais en réalité, l'État islamique s'était replié sans combat. L'État islamique sur le terrain est très manœuvrant. Il perd effectivement du terrain, mais c'est du désert, mais il reste extrêmement actif dans ses contre-offensives. Et pour le moment, donc, aucun grand succès n'a été rencontré par les forces qui s'opposent à cette nébuleuse terroriste.
Encore un mot, parce que Hillary Clinton, on l'a dit tout à l'heure, Nadine Ebsan le disait dans son papier, elle a ciblé aussi l'Arabie Saoudite, le Koweït et le Qatar. C'est pas si fréquent. Ce sont des alliés des États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez de cette manière de désigner aussi le rôle de ces pays-là, du Golfe?
Oui, alors c'est en quelques mots. Problème qui est souvent évoqué. En réalité, via ces pays-là, il y a deux choses. C'est le financement du terrorisme. Bon, bien sûr que ce ne sont pas les gouvernements qui le font, mais les Américains nomment souvent, désignent plutôt des financiers qui appartiennent à ces pays et qui ont délivré des fonds à des mouvements terroristes. Donc là, on est passé à une phase suivante. Cela dit, il faut tout de même être extrêmement prudent. Un des objectifs affichés par Daesh, c'est vraiment de monter les populations occidentales en général non musulmanes contre leurs composantes musulmanes de façon à pouvoir récupérer si possible ces populations musulmanes en leur disant regardez, vous êtes maltraités, vous êtes agressés, donc venez de notre côté parce que nous sommes les seuls à pouvoir vous défendre. Alors il faut faire très attention à ne pas tomber dans ce piège qui est évident, et les déclarations de Donald Trump à ce propos, à mon avis, sont tout de même assez sidérantes, parce qu'elles risquent de participer justement au succès psychologique que tente de remporter l'État islamique dans ce domaine.
Merci beaucoup Alain Rodier d'avoir accepté d'être en ligne avec nous.
France Culture, 12h48, suite du journal avec la nouvelle journée de mobilisation pour les opposants à la loi travail. Alors que le Sénat entame l'examen du projet de loi El Khomri, le leader de la CGT, Philippe Martinez, prédit une mobilisation énorme.
Voilà, énorme. Mobilisation censée dépasser le pic de la contestation atteint le 31 mars dernier avec 390 000 personnes selon la police et 1,2 million selon les organisateurs. Lorraine Moumbouya, comment se présente cette journée?
Oui, alors il y aura deux fois plus de personnes que la dernière grande mobilisation qui sont attendues donc dans la rue. L'appel a été lancé par cette organisation syndicale, la CGT en tête, mais aussi des syndicats de lycéens comme la FIDEL. Ils comptent faire une démonstration de force à travers un cortège important. Le grand rassemblement ne démarrera pas avant 13h à Paris. aucun blocage de prévu. Une centaine d'autres manifestations vont avoir lieu sur tout le territoire, mais le point d'orgue reste la capitale. À titre d'exemple, pour le seul département normand, 80 cars et 1000 places de train ont été réservées pour faire venir à Paris 5000 personnes. Hier, seulement 4% des agents SNCF étaient encore en grève, mais les cheminots pourraient être plus nombreux à cesser le travail aujourd'hui.
Journée donc de mobilisation nationale, mais qui ne sera pas, selon la CGT, un baroud d'honneur, c'est-à-dire la fin finalement. Est-ce qu'il y a une stratégie pour la suite, Lorraine ?
Oui, alors la CGT veut montrer qu'elle ne fait pas cavalier seul, même si des syndicats comme la CGC ou la CFDT sont absents du mouvement contestataire. Le prochain grand rassemblement est prévu pour le 23 juin, mais d'ici la rencontre avec la ministre du Travail prévue ce vendredi, il n'y aura pas d'autre journée de convergence nationale. Depuis 4 mois, les syndicats tablent sur une action en continu. Les salariés du secteur public et privé vont continuer à organiser des manifestations spontanées. En tout cas, l'intersyndicale va se réunir demain soir concernant la votation citoyenne contre la loi El Khomri qui sera remise au président de la République le 28 juin prochain.
Lorraine Moyumba, merci beaucoup. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour Antoine.
Il faut dire que cette loi, entre-temps, elle revient. Donc elle est revenue au Sénat, puis elle va repasser par l'Assemblée. Il faut signaler aussi que vendredi, la ministre du Travail va recevoir le secrétaire général de la CGT, M. Martinez. Donc, est-ce que lui-même peut encore, dans cette négociation, faire bouger ce texte qui est étudié par l'Assemblée ?
En tout cas, il n'y a que lui, Philippe Martinez, qui est désormais en mesure de faire évoluer ce texte. Les sénateurs au Palais du Luxembourg, certes, sont en train de l'amender. Comme le Sénat est à droite dans un sens encore plus libéral que le projet de loi initial, ils ont notamment prévu d'entériner la fin des 35 heures, mais ça n'aura aucun effet puisque selon la Constitution, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot dans cette affaire. Et à l'Assemblée nationale, ce ne sont pas les députés qui ont la main, c'est le gouvernement qui a déjà montré que toute discussion était verrouillée en utilisant le 49-3 avant que ne s'engagent les débats. On a donc un débat parlementaire soit inutile, soit inexistant, et tout se négocie désormais entre le gouvernement et la rue, et comme c'est la CGT qui tient la rue, c'est avec la CGT que tout va se discuter. D'ailleurs, la CFDT d'un côté et le MEDEF de l'autre côté se sont aperçus que les choses étaient potentiellement en train d'évoluer. Laurent Berger, hier, patron de la CFDT, rappelait au gouvernement sur BFM TV que les discussions et les accords préalables sur ce projet de loi avaient déjà eu lieu. On voit bien qu'il s'inquiète de ce qui pourrait être négocié entre Myriam El Khomri et Philippe Martinez. Et même chose pour Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, qui lui essaie de montrer sa fermeté en adoptant une position très dure dans les discussions sur l'assurance chômage qui doivent, elles, s'achever jeudi. Il n'y aura pas de hausse des cotisations patronales, a décrété le MEDEF hier, tandis que la CGT, de son côté, demande au gouvernement de forcer la main du syndicat patronal. On voit donc là qu'un jeu à plusieurs bandes est en train de se dérouler, que les choses sont en train d'évoluer. Alors, qu'est-ce qui ressortira des discussions entre la CGT et le gouvernement ? Difficile à dire pour le moment. En tout cas, il y a vraisemblablement de part et d'autre une volonté d'avancer, du côté de la CGT notamment, qui ne réclame plus le retrait pur et simple du texte, mais seulement d'un certain nombre de dispositions, en particulier de l'article 2, qui donne la primauté aux accords d'entreprise.
Stéphane Robert, merci beaucoup. Jean Auroux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'invité de la dernière partie de la Grande Table, ancien ministre du Travail, au début du premier septennat de François Mitterrand. Bon, on a juste une petite minute pour que vous nous reparliez de tout ça tout à l'heure. Mais est-ce que vous avez l'impression que là, on est encore en train, dans une phase de négociation, ou on est en train d'une phase de passage en force du gouvernement ?
Alors où nous parlons, je suis incapable de donner la réponse. Je ne sais pas ce qui se dira demain entre la ministre et M. Martinez. En tout cas, ce que je regrette, c'est que cette affaire a été mal engagée, y compris d'abord par le gouvernement, qui, contrairement à ce que nous avons voulu faire en 82, s'est engagé d'une manière qui a mis de côté les partenaires sociaux et notamment les syndicats, puisque on a multiplié les commissions, et souvent des commissions de spécialistes du droit, j'allais presque dire des technocrates du droit. Alors il y a eu la commission Combrexel, il y a eu la commission Metling, il y a eu Badinter. C'est exactement le contraire de ce que j'ai fait, puisque moi j'ai commencé par les organisations syndicales qu'on a retrouvées après.
Vous n'aurez pas pu leur donner le conseil, donc ils ne sont pas venus chercher des conseils chez vous. Jean Auroux, merci beaucoup. On vous retrouve dans la dernière partie de la Grande Table.
À moins de 10 jours du référendum sur une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le camp du Brexit a le vent en poupe. Dans la dernière enquête, il recueille 53% des intentions de vote.
Oui, à ce sujet, on a noté des déclarations hier assez tonitruantes du président du Conseil européen Donald Tusk. Interview au quotidien allemand Bild. En tant qu'historien, je crains qu'un Brexit puisse marquer non seulement le début de la destruction de l'Union européenne, mais aussi de la civilisation occidentale. Pierre Benazé, bonjour.
Bonjour Antoine.
On fait appel à vous parce qu'on veut comprendre les arguments, les références historiques éventuellement de M. Tusk pour tenir de tels propos.
Mais les références historiques de Donald Tusk, c'est évidemment celle d'un homme qui a été personnellement marqué par les conséquences politiques de l'histoire, puisqu'il s'est lui-même vu interdire d'exercer son premier métier, journaliste, en Pologne, à l'époque de la loi martiale, puisqu'il appartenait au syndicat Solidarność. Il parle d'ailleurs, pour être très précis, je cite, de la civilisation politique occidentale. Et comme il parle allemand, il n'y a aucun risque que le journaliste de la Bild-Zeitung ait mal compris ce qu'il a voulu dire. Il semble craindre avant tout l'instabilité géopolitique que pourrait entraîner le départ du Royaume-Uni. Nos ennemis sabreront le champagne si le Brexit l'emporte, affirme-t-il, précisant qu'il s'agit des ennemis extérieurs, ceux qui ont intérêt à voir le projet européen s'effondrer. Il ne le dit pas expressément, mais les yeux et les craintes de beaucoup en Europe centrale en général, en Pologne en particulier, sont tournés vers la Russie. Pour les anciens pays du bloc soviétique, membres de l'UE, le Royaume-Uni est un des gages de la stabilité et de l'ancrage à l'ouest du nouvel ensemble européen auquel ils appartiennent. Pour Donald Tusk, il faut donc que l'Union européenne puisse résoudre les multiples crises auxquelles elle fait face et le Royaume-Uni, son départ serait une crise supplémentaire et inutile. Il prédit par ailleurs qu'en cas de Brexit, il faudrait 7 ans pour renégocier les nouvelles relations avec le Royaume-Uni.
Pierre Benazé, merci beaucoup. En direct de Bruxelles, à l'instant, l'UEFA annonce que la sélection nationale russe va être disqualifiée de l'Euro 2016 en cas de nouvelle violence des supporters. En tout cas, déjà l'équipe nationale russe condamnée à 150 000 € donc d'amende par l'UEFA. La météo a un temps perturbé au nord, variable au sud. Température 18 à 28 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard et un prochain journal à 18h sur France Culture avec Tara Schlegel.